C'est la bande originale sur France Inter avec Leïla Kaddour Boudadi, avec Louis Bozo. Comment ça va, mon Louis?
Bonjour, très bien, merci.
Daniel Morin.
Oui, bonjour, Nagui, ça va?
Avec Richard Lornac.
Oui, bonjour, Nagui, ça va?
Et notre invité aujourd'hui, c'est Christine Ocrin.
Bravo, ouais. Oui, bonjour, Nagui, ça
merci
va?
Merci d'être là.
Ah, oui.
C'est bien dans le ton. Merci d'être notre invité. Dans 5 minutes, une humeur musicale, histoire de dégayer votre journée. À 11h20, les 4 vérités de Daniel Morin. 11h30, la bande originale de notre invité Christine Ocrin. Le Wiki Morin, sa définition dans le dictionnaire. 11h55, je n'oublierai jamais. Deux et par Christine Ocrin. Et dans la dernière demi-heure, nous aurons Chris Esquer qui interviewera Christine Ocrin. Deux Chris ensemble, ça vaudra le choc. Et ce sera le rendez-vous média d'Alex Vizorek. Merci Christine de venir nous présenter ce livre, Les oligarques, le système Poutine. On peut croire que c'est un bandeau, mais en fait ça ne s'enlève pas, on ne peut pas le retirer. C'est presque la baseline, le sous-titre de ce livre, Les oligarques. C'est publié chez Robert Laffont. Je l'ai dit là, juste avant qu'on soit à l'antenne. L'exercice pour moi de résumer un livre de 380 pages aussi argumenté, détaillé, étayé, avec autant de noms que je n'arriverai même pas à prononcer, avec autant de chiffres, de pourcentages, de dates, est extrêmement difficile, mais...
Surtout face ça, à vous. Vous allez décourager tous mes nombreux lecteurs.
Non, non, c'était ça mon mais. C'était ça mon mais. C'est que c'est passionnant. C'est que ça se lit comme un roman policier. Tristement, j'ai envie de dire, parce que c'est quand même la réalité. Ce n'est pas de la fiction. Et vous le prouvez bien avec tout ce que vous apportez comme argument. Moi, je partirais plutôt de la fin, puisque c'est le dernier chapitre qui est consacré à Poutine, où on voit que sa fortune personnelle est estimée à peu près 70 milliards de dollars. C'est-à-dire un truc juste improbable.
C'est pas mal, hein. Mais c'est peu par rapport aux autres, hein, finalement.
Oh ouais.
70 millions. C'est quand même pas mal. Hein.
C'est 70 millions, d'ailleurs, je crois que je me trompe.
Voilà. Non, c'est entre 40 et 70 milliards.
Milliards.
Milliards. Voilà, milliards. Milliards. Ce sont des estimations du Trésor américain.
Et alors, vous dites d'ailleurs qu'on comprend mal Poutine, que l'Europe, les États-Unis comprennent mal. Et vous citez même Hillary Clinton, que vous aviez rencontré dans un précédent ouvrage, qui, elle, dit carrément que cet homme est dangereux. Même si vous ne positionnez jamais vraiment en nous disant qu'il est dangereux ou pas. Vous faites votre travail d'observatrice, voilà, de journaliste. J'avais peur de dire le mot dans ma bouche. Mais en tout cas, moi personnellement, simple lecteur lambda, ça me fait super méga flipper. D'abord, je me dis dans quel état on va laisser notre planète si ça continue comme ça avec ce Poutine qui semble être un mafieux, un dangereux, un tueur, un assassin. Non, mais il y a de tout. C'est un roman, comme un roman policier. Il y a des gens qui sont. Il y a un pauvre monsieur de 67 ans qui est retrouvé pendu chez lui en Angleterre.
Enfin, il n'était pas vraiment pauvre. Hein. Il était appauvri, mais il avait été très riche.
Non, mais je dis pauvre bonhomme, parce que bon, le mec suicidé à 67 ans à Ascot, il se croyait peinard sûrement en Angleterre. Et je pense à la journaliste aussi.
Politkovskaya,
merci de me sauver.
Qui a été assassinée, on s'en souvient, à la porte de son immeuble par trois hommes. Alors, il y a eu un procès, finalement, 10 ans après, Anna Politkovskaya, journaliste extrêmement courageuse qui avait couvert la guerre en Tchétchénie.
Ouais.
Et qui a été assassiné. Il y a eu aussi, souvenez-vous, Litvinenko, le premier meurtre nucléaire. En Grande-Bretagne, le type assassiné au polonium.
En parapluie qui vient le piquer et qui le tue, c'est ça ?
Oui, ça c'est encore autre chose.
C'est là, versé dans son thé, plutôt, le polonium.
Le polonium versé dans son thé. Et alors, l'agent du KGB qui a pu quitter la Grande-Bretagne s'est tout simplement présenté à la mairie de Sotchi. Vous vous souvenez l'endroit où ont eu lieu les Jeux Olympiques. Il n'a quand même pas été élu, entre guillemets. Mais cet homme a été protégé par les services russes auxquels il appartient toujours, ou auxquels il appartenait.
Parce qu'il est quand même
donc,
le point commun
on
de...
On peut voir que Litvinenko, qui était lui aussi un ancien du KGB, mais qui avait fui en Grande-Bretagne et qui essayait de prouver le rôle de Vladimir Poutine dans les attentats de Tchétchénie. Si vous voulez, moi, ce qui m'a frappé quand je me suis lancée dans cette enquête...
Pardon, finissez juste l'idée. Est-ce qu'on trouve ou pas un rapprochement entre le rôle et la présence de Poutine et ses assassinats ?
Le rôle et la présence de Poutine, lui, il est tout en haut.
On les comprend,
d'un système.
C'est sous-entendu, c'est entre les lignes.
Il est en haut du système. Et ce qu'on a beaucoup de mal à comprendre, nous autres Européens, alors que ça se passe à l'autre bout de l'Europe...
Oui, pas si loin non plus.
C'est pas tellement loin que ça, c'est en même temps que nous. Et c'est ça qui est terrible, parce qu'on n'imagine pas comment un système autoritaire... Mais pas issu d'un coup d'État militaire. Vladimir Poutine a été élu.
Il sera sans doute réélu.
C'est un système autoritaire qui s'appuie à la fois sur les services, c'est-à-dire le KGB et toutes les forces de sécurité, comme on dit là-bas, et sur les oligarques, c'est-à-dire des types richissimes qui tiennent les principaux pans de l'économie.
Mais vous ne seriez pas en train de noir sur le tableau. Tout ça, c'est peut-être que des hasards.
C'est vrai que
j'étais en train de me dire qu'un peu
des trolls,
Daniel, il va falloir que vous bossiez encore plus aujourd'hui parce que un peu de vanne dans ce ça va nous faire du bien parce que quand j'ai lu le livre il y avait des moments où j'entendais des bruits chez moi, je me retournais en disant qu'est-ce qui se passe, ils sont là, ils arrivent.
Est-ce que c'est dangereux d'écrire Christine O'Krent un bouquin sur le
très bonne question, mais juste avant ça je voulais citer,
mais tu ne la poseras pas,
reprendre la citation d'Aristote, parce que on dit oligarque et c'est quand même bien aussi de redonner cette définition, surtout via Aristote. Il y a oligarchie quand les détenteurs de la fortune ont l'autorité suprême dans l'État. Quand le pouvoir et l'argent, c'est là où on arrive avec ce thème d'oligarque et d'oligarchie. Donc, la question de Leïla, est-ce que vous vous sentez en danger, en fait, vous ?
Mais maintenant que je suis avec vous, non.
Ah bah si.
Non,
c'est l'inverse. Pardon, Christine. C'est l'inverse. C'est moi qui me sens en danger parce que vous êtes là, maintenant.
Christine, vous avez toujours vécu.
Chacun son risque.
Vous avez toujours vécu dangereusement dans votre métier tout de même.
Quand on est journaliste, quand on rend des comptes.
Non, mais toujours attiré par le pouvoir. Vous avez beaucoup écrit sur le pouvoir, sur les femmes qui étaient au pouvoir, sur Hillary Clinton, sur les débats, que ce soit avec les Giscard, les Mitterrand, les Chirac, les Fabius, et même Bush-Kerry aussi. Donc vous êtes attiré par le pouvoir. Ça vient de papa, ça, cette attraction du pouvoir.
Mais moi, je suis journaliste et j'essaie de comprendre le monde dans lequel on fonctionne. Et le monde dans lequel on fonctionne...
Il était proche du pouvoir.
Pardon ?
Papa Ockrent, il était proche du pouvoir, c'est pour ça que je dis...
Enfin, il s'est occupé du plan Marshall pour la Belgique, et puis moi je fais partie d'une génération, si vous voulez, où moi ce qui m'a marqué, c'est le rideau de fer, c'est le mur de Berlin. D'ailleurs, il y a très exactement 25 ans, à 3 jours près, et j'étais sur place pour France 2 à l'époque...
Mitterrand-Gorbatchev, c'est vous qui avez
fait
cette interview, c'est vous qui l'avez faite. Et d'ailleurs, je vais pas me permettre de résumer l'histoire de la Russie comme ça, mais j'avais pris des petites notes au fur et à mesure. Non, mais juste pour comprendre. Gorbatchev essaye de dire on va aller vers la liberté, vers l'ouverture, la paix historique, la glasnost et ainsi de suite. Sauf que faillite totale, les entreprises russes n'arrivent pas à gérer d'une manière capitalistique les richesses du pays. Donc là, c'est la faillite. Arrive donc Eltsine en 91, qui s'approprie l'arsenal nucléaire, les banques centrales et ainsi de suite. Mais là aussi, ça ne marche pas. Désordre moral. Tout s'achète, tout se vend. Les mafieux commencent à venir à s'intéresser à tout ce qui se passe en Russie. Et des suicides, plus 53%, vous dites dans votre livre, de suicides.
Je crois qu'on ne s'est pas rendu compte de cela, parce que pour nous, le mur de Berlin tombe, c'est la fin du communisme. En gros, les Russes, certes, ça ne va pas être facile, mais ils vont devenir comme nous, quoi, en gros. Et on s'est désintéressé de cet immense pays. On n'a pas du tout... On ne s'est pas intéressé à Yeltsin, alors qu'on était fasciné par son prédécesseur.
Donc il y a des gens tellement pauvres qui ne voient pas comment ils peuvent s'en sortir, qu'ils se suicident.
La durée de vie baisse en Russie dans les années 90. Pour nous, ce sont les années quoi ? Les années Mitterrand-Chirac. Alors, il y a eu d'autres problèmes, mais la durée de vie...
Et eux, en interne,
a continué d'augmenter.
Ça les laisse totalement indifférents, parce qu'il y a même l'un de ces oligarques qui dit si 30 millions de personnes meurent, on s'en fout, d'autres réussiront et seront heureux. Enfin, c'est-à-dire, il y a un mépris total pour les pauvres.
Pour la vie humaine. Et ça, il y a aussi une tradition russe du pouvoir absolu depuis... Les boyards, les tsars, Staline, etc. On est quand même culturellement dans un autre monde.
Arrive 95. Alors là, il y a déjà un peu ces mafieux qui prennent le pouvoir et qui se disent...
Ce ne sont pas nécessairement des mafieux, ce sont des oligarques, c'est-à-dire des aventuriers, un peu comme aux États-Unis au XIXe siècle.
Quand on fait dans l'illégalité...
Mais il n'y a pas de loi, il n'y a pas de règle de droit.
C'est pas un
donc
droit.
Voilà, ils prennent ce qu'ils peuvent au passage.
Il va sortir en Russie, votre livre ?
J'attends de voir, comme on dit.
C'est bien, ça serait bien.
Il y aura sûrement une traduction russe.
Je voudrais juste finir, pardon. 80. Non, parce que je me suis fait. Ça va, je l'ai lu, j'ai bossé.
Vous n'avez pas me gonflé.
Non, mais je vais aller au bout du raisonnement chronologique. 95, privatisation avec un truc que je n'avais pas très bien compris au début, qui était pré-action. C'est-à-dire, les banques disent vous avez un problème d'argent, on vous prête de l'argent, mais en échange, vous nous donnez des actions des sociétés. Et là, là, elles deviennent propriétaires de richesses du pays. Sauf que là, à nouveau, elles ont des problèmes. Ces banques, elles sont en faillite. Le FMI envoie 4,8 milliards à ces banques pour les aider. Sauf que ces 4,8 milliards, hop, disparaissent.
S'évaporent.
Et il y a un mec qui s'appelle Khodorkovsky.
Khodorkovsky.
Voilà, le même. C'est pas moi qui l'ai dit, monsieur Khodorkovsky, c'est elle.
Dont France Culture diffusera l'interview que j'ai pu réaliser la semaine dernière. Il était brièvement de passage à Paris et j'ai pu l'interroger longuement.
Et vous avez demandé si c'est lui qui avait pris les 4,8 milliards du FMI ?
Non, parce que comme sa fortune depuis...
Vous le dites dans le livre.
A beaucoup... Non, ce n'est pas lui, nécessairement.
C'est sa boîte.
Non, il avait une banque qui s'appelait Menatep. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que tous ces types qui font fortune à ce moment-là, il y en a d'abord qui ratent, il y en a qui disparaissent, il y en a qui se font assassiner. Mais la quinzaine de types dont je retrace le parcours sont des aventures dont certaines sont follement romantiques. Et le type le plus brillant, le plus sobre d'une certaine manière, c'est Khodorkovsky. C'est d'ailleurs pour cela que Vladimir Poutine, qui lui prend le pouvoir en 2000...
Qui a eu trois vies, vous dites, hein, ce Khodorkovsky.
Khodorkovsky affronte Poutine. Et Poutine, qui sait, il vient du KGB, Poutine, il sait qu'il ne peut y avoir qu'un seul maître en Russie. Et donc, il choisit de faire de Khodorkovsky l'exemple pour faire comprendre à tous ces types richissimes qui ont fait sortir leur argent...
En le mettant en prison pendant 8 ans.
En Europe et ailleurs. Ouais. Et il envoie Khodorkovsky dans un camp pendant 10
mais pourquoi,
ans.
Pourquoi il ne le tue pas, d'ailleurs? Pourquoi il le met dans un camp pour après le libérer Jeux Olympiques?
Pas la peine.
Oui, c'est vrai, je suis con. Oui, c'est vrai, pas la peine. Oui.
Non, mais c'est beaucoup plus efficace. Vrai. C'est beaucoup plus efficace, tous les 2 ou 3 ans, de faire ça, un procès avec des arguments totalement bidons et de le faire apparaître devant les télévisions russes dans une cage. Et là, parce que les Russes détestent les oligarques, ce ne sont pas du tout des héros.
Exactement, et c'est pour ça que Poutine a été élu en 2000 aussi. C'est en disant, moi, je vais faire régner l'ordre et la sécurité.
Et il prouve à son opinion publique, voilà, qu'il a maté ces gens richissimes qui sont aujourd'hui encore perçus en Russie comme des voleurs de la richesse collective.
Alors, il y a quelques bons hommes qui sont aussi importants dans ces oligarques avant l'arrivée de Poutine en 2000. Il y a le Patarkachi.
Ah, non, vous y êtes presque. Badri Patarkashvili.
Merci.
Qui était l'associé et le grand ami de Boris Berezovsky.
Pour pas qu'on se noie dans tous ces noms.
Avant d'écrire le livre, vous avez été voir un orthophoniste?
Non, mais j'ai beaucoup répété.
Elle a bossé, oui.
J'ai eu beaucoup de mal, sérieusement, à mémoriser tous ces noms. C'est l'une des difficultés.
Je comprends. Mais en tout cas, lui, il est important parce que c'est le premier à être parti pour Londres.
Il a fui.
Et surtout, il a rendu Londres ce que vous baptisez London. Et puisqu'on en est aussi, si je peux me permettre, faire des petites remarques sur votre livre, Londongrad, c'est un chapitre dans votre livre. C'est le chapitre numéro 4 qui est entre le...
Ah oui,
non, mais attendez.
Toi, tu en fais trop.
Non, deux secondes. Attendez la fin de la vanne. Le chapitre numéro 4 qui est entre le 6 et le 8.
Ah oui.
C'est-à-dire qu'il y a une erreur dans votre livre.
Je vais dire ça à Robert Laffont, ils vont être très surpris.
Comment il est content là, il est tellement content.
Ils vont être très surpris.
Je vous assure, non,
regardez. Pour la réédition.
C'est le chapitre numéro 4 qui est entre le 6 et le 8. Mais
c'est très intéressant. J'avais pas.
Christine,
là, il y a un petit problème.
Christine,
enfin, ça ne change rien à l'intérêt.
On se doute, c'est pas vous qui l'avez écrit, mais lisez-le quand même. S'il vous plaît,
non, c'est pas moi qui l'ai branché. C'est pas tout à fait.
C'est ça. Non, mais ça, c'était juste pour la. C'est vraiment.
Ah, c'est rigolo. Personne ne l'a remarqué. Donc,
ça veut dire que les autres bouquins.
Ça veut dire que les autres ne les avaient pas lus, peut-être. Donc, pour finir avec cette histoire, donc ce patard. Lui débarque à Londres.
Géorgien, comme son nom l'indique.
Et ça devient Londongrad. Et là, vous dites que Londres, c'est vraiment la plaque tournante, j'ai envie de dire, de l'argent à nettoyer venant de Russie, que tout s'achète là-bas et que même la jet set et même tous les nobles anglais cèdent à cette tentation et que la ville maintenant vit de plus en plus au rythme de ces Russes et de ces oligarques. La preuve, le football. Et alors là, le football, c'est le deuxième truc qui, moi, m'angoisse. C'est-à-dire que, étant amoureux du football, je me dis que c'est l'arme blanche blanche de sous ces oligarques via Gazprom qui donne 50 millions par...
Abramovitch, c'est Chelsea.
C'est Chelsea. Ousmanov, c'est Arsenal. Il y a Ribolovlev,
c'est Monaco.
Qui est à Monaco. Voilà. Et Gazprom qui sponsorise tout ça.
Tout ça. Il y a d'ailleurs des... en pleine crise ukrainienne.
Nous illuminons le
au
foot.
Au Parc des Princes et au Stade de France, ouais. Nous illuminons le foot.
Ça
alors, dans la journée, on entendait, c'est terrible, Vladimir Poutine, l'Est de l'Ukraine, etc. Et puis Gazprom, tout simplement, flottant au vent de nos stades.
Et comme par hasard, le Mondial 2018 sera organisé en Russie, évidemment. Et Gazprom, comme par hasard, c'est un copain de Poutine qui en est le patron, ah ben, Miller.
Gazprom est la grosse société publique, c'est encore une société d'État, qui est où Vladimir Poutine a placé à sa tête Alexei Miller, qui est l'un de ses amis. En fait, de Saint-Pétersbourg.
Il vaut mieux, voilà, c'est la bande de Saint-Pétersbourg. En fait, ce qu'il a fait Poutine en arrivant en 2000, c'est qu'il a viré tous les oligarques qui étaient là avant et qui avaient profité de la situation pour mettre son cercle à lui d'autres, une deuxième génération d'oligarques qui viennent soit du KGB, soit de Saint-Pétersbourg, idéalement des deux.
Des deux, voilà, presque tous ça. Des deux d'ailleurs.
C'est ça, ouais, idéalement.
Alors il y a une histoire géniale qui est celle de son ancien prof de judo, qui s'appelle Rothenberg, son ami d'enfance. Et Rothenberg vient d'obtenir, il y a 3 jours, le monopole de la réédition de tous les livres scolaires russes. Punaise. Parce que Vladimir Poutine veut qu'ils soient réécrits quand même, pour que l'histoire soit écrite de façon un peu différente.
Et que la grandeur de la Russie revienne dans les manuels aussi, j'imagine.
Et ouais. Qui a le monopole de cette réédition ?
Son pote.
Son copain. Rothenberg, qui est l'un des oligarques le plus proche de lui et qui était son prof de judo.
Et qui présente, je rappelle, Pékin Express hein, sur M6. Si Leïla. Faut pas lancer sur les autres, on s'en fout. Leïla, quelle est votre vision, vous, de la Russie, soit après la lecture de ce livre de Christine O'Krent?
Ouais, ma vision de la Russie, c'est un pays où, sur une chaîne nationale, donc où l'information, on le sait très bien, est cadenassée, dirigée par le pouvoir, où on vous indique qu'il faut se méfier des dons d'organes venant d'homosexuels parce que c'est dangereux. Voilà ma vision aujourd'hui, notamment de la Russie.
Ouais. Ah, ça fait froid dans le Louis-Boson.
Moi, ce qui m'a fait un peu peur, c'est qu'en fait, tous ces gens qui ont beaucoup d'argent commanditent des partis politiques qui ne sont pas toujours ceux dont... Nous souhaitons le développement.
Oui, donc, non, mais il y a du financement,
alors,
même aux États-Unis. Oui, on peut le dire. Bah, elle le dit d'ailleurs. Obama financé par
Blavatnik.
C'est lui, je le reconnais maintenant, qui a juste acheté Warner Music. En même temps, même dans le monde de la musique, les gars débarquent pour X milliards, qui financent, qui aident des universités.
Oui, il a financé aussi Romney. Hein, parce que ça, c'est aux États-Unis, c'est un autre système que le nôtre.
Mais alors, je vais vous dire ce qui m'inquiète, c'est après avoir lu votre livre.
Il est très inquiet,
ce garçon. Oui, je suis très... Mais oui, parce qu'il fait...
Non, mais je suis navrée comme ça, Nagui. Moi, je vous aime bien, je ne voulais pas... Franchement, si j'ai écrit ce livre, ce n'était pas pour
ajouter à votre... Je flippe ma race, Christine, je flippe ma race. Il va me faire faire
des
bises.
En fait, c'est les gens qui sont gavés de pognon qui ont peur.
Pourquoi qu'un rapport ? Toi, t'as pas peur ?
Je suis pauvre.
Quand tu vois qu'il y a l'Eurasie, c'est-à-dire qu'ils ont décidé de partir finalement à la conquête d'une grande Russie.
Enfin, le rêve de Poutine, c'est de réunir.
Ah ouais, quand même.
Oui, mais Poutine considère que la fin de l'Union soviétique.
De Vladivostok à Gibraltar, c'est ça leur rêve.
Non, de Londres à Pékin.
Non, c'est ça leur rêve.
De Londres à Pékin.
Et, les financements, à part Obama, à part René, il y a aussi sous-entendu peut-être Nicolas Sarkozy dans ces financements.
Non, là, il faut être très...
Attention.
Dans le système américain, vous avez un système de financement des candidats, des partis politiques, etc., qui est très différent du nôtre. Ce qui est sûr, c'est que pour le Kremlin, l'Europe est un processus bizarre et dangereux. Parce que l'Union européenne, pour la vision du monde de Poutine, l'Union européenne, on ne s'en rend pas compte, mais on l'a vu en Ukraine, représente une force d'attraction immense pour tous ceux qui n'y sont pas. Pour tous ceux qui y sont comme nous, on râle du matin au soir en disant c'est de la faute de Bruxelles, rien ne marche, etc. Mais pour ceux qui ne sont pas dans l'Europe, c'est un espace démocratique, on circule librement, on parle librement, on pense librement, on couche librement, toutes sortes de choses qui, pour Vladimir Poutine et l'idéologie qu'il incarne, c'est terrible. Et donc, par rapport à cela, il voit dans ces sociétés européennes, en France et ailleurs, des canaux d'infiltration, et surtout dans ces partis d'extrême droite, de droite dure, qui ont finalement autoritaire,
il parie sur la victoire du FN.
Enfin, en tout cas, il encourage tous ceux qui peuvent, encore une fois, développer une vision de la société et du monde.
Tous les eurosceptiques.
Proche de la sienne. Non, pas tous.
En grande majorité,
D'extrême droite. Et il y a eu d'ailleurs des réunions financées par un oligarque, je vous épargne son nom, il s'appelle Malofeyev quand même, à Vienne, capitale de l'Autriche, où il y avait Marine Le Pen, voilà. Mais aussi des Flamands d'extrême droite, etc. Enfin, il y a plusieurs partis d'extrême droite en Europe.
Il y a un papier qui est dans le Nouvel enfin il faut dire l'Obs maintenant, faut pas dire Nouvel Obs, mais enfin il y a beaucoup de dossiers dans Libé aussi qui sortent là, machin, et, enfin, vraiment c'est la,
il y a eu un très bon dossier dans Libé aussi, c'est ça, il y a une dizaine de jours
sur ce Blavatny,
non sur les réseaux en France, sur les réseaux d'influence du Kremlin en France.
Et donc d'aide indirectement à certains partis politiques. Autrement dit, est-ce que la démocratie peut être achetée et rachetée par les oligarques russes?
Acheter et racheter, non, parce que nous fonctionnons, même s'il y a des entorses et des anicroches, mais dans un système où il y a la règle de droit, où il y a la liberté d'expression.
Christine,
ça n'a rien à voir.
Qu'est-ce qui les empêche de racheter Libé, de racheter Le Monde, de racheter une chaîne de télévision?
Bah écoutez, il y en a un qui avait racheté François.
Ça a été un échec.
Ça n'a pas marché. Il s'appelle Pougatchov. Il avait aussi racheté une épicerie de luxe qui s'appelle Ediard. Ils n'ont pas marché. Il est maintenant à Londres, lui aussi.
Ils ont des hôtels à Saint-Jean-Cap-Ferrat, près du Cap Nègre aussi.
Ils ont racheté une grande partie de la Côte d'Azur, belles villas.
Et de Courchevel aussi.
Demander aux hôteliers de la Côte d'Azur et de Courchevel, ils sont ravis. Ces gens dépensent des fortunes absolument hallucinantes, se livrent à des scènes que la moralité à cette heure-ci sur France Inter m'empêche de décrire.
Comme à Courchevel.
Comme à Courchevel.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Il y a des buts apparemment.
Un chat, un chat.
Il y a un monsieur qui s'est retrouvé.
Il y a toute une industrie de service.
Industrie de service. Christine Le Crenn.
Le service à la personne.
L'aide à la personne.
Je vais le vendre, votre bouquin. Je vais le vendre. C'est un roman passionnant, Christine Le Crenn, qui s'appelle Les Oligarques. Il y a des meurtres, il y a des assassins, il y a des voleurs. Et il y a des putes. C'est chez Robert Laffont.
À l'occasion.
Ah, j'aurais tous entendu.
Nagui sur France Inter.